France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT in the house. Halia,
Radio Rosana,
Paris.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
Plus populaire encore que la Reine des Neiges chez les enfants, le Père Noël, sorte de roi des neiges, roi des cadeaux en tout cas. Vous allez sûrement le voir passer si vous plissez bien les yeux et que vous restez dehors à scruter le ciel. Nous, dans l'équipe d'Un jour dans le monde, on a été très très sages, hein, promis. Alors pour l'attendre, on va retracer son parcours géographiquement, historiquement. Et dans la famille Père Noël, on va demander aussi Saint-Nicolas, Santa Claus, Father Christmas, la Befana italienne et le Dead Morose russe avec notre invité tout de suite. Dans Le Monde à l'endroit, Louise Baudet interroge la liberté d'expression à l'américaine et à la Donald Trump, lui dont l'administration sanctionne des Européens, notamment le français Thierry Breton, pour entrave supposée à cette liberté. Le reportage est à Rio ce soir, où il n'est pas rare désormais de croiser des caïmans dans les favelas. Oui, des caïmans qui ne savent plus où ils habitent.
On en voit souvent qui arrivent le ventre complètement rempli de plastique. Mais ce qui est le plus courant, c'est d'en recevoir qui se sont fait écraser par une voiture. J'ai déjà reçu des animaux qui ont été attaqués à coups de bouteilles, de bâtons. Les personnes en ont très peur.
Qui grignotera qui entre l'habitat naturel des caïmans et l'urbanisation précaire du Brésil? On suivra Jean-Mathieu Albertini à Rio. Sous les radars, Alice Moreno nous emmène ce soir au Mexique, en Gambie et au Nigeria. Le Nigeria où se déroule une fête à tout casser en ce mois de décembre, c'est devenu une tradition. Et puis plongé dans deux comédies musicales qui racontent l'indépendance américaine et la Révolution française. Si vous voulez entendre Alain Bachung en Robespierre, ce sera vers 18h50. C'est parti pour un tour de la planète à la vitesse d'un traîneau supersonique.
Qu'est-ce que tu vois, chérie?
En fait, des cadeaux.
Mais c'est génial!
On peut les ouvrir. Oh. Un téléphone.
T'es contente?
Oui.
Du fil dentaire, c'est du fil dentaire, c'est ça? Pour la recette?
Quand te reverrai-je, pays merveilleux.
Merci Père Noël.
Merci Père Noël.
Des enfants, des grands-enfants aussi à l'ouverture des cadeaux, ça c'était l'an dernier du côté de Lille. Répétition de ce qui vous attend peut-être dans les heures qui viennent, preuve aussi que le Père Noël existe, parce que oui, on va rassurer tout le monde, le Père Noël existe bel et bien, pas de débat là-dessus, surtout ce soir, et comme il existe, on est en droit d'en savoir plus sur lui, grâce à vous Nadine Cretin, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne des fêtes et des traditions occidentales, vous avez écrit de nombreux livres, dont Histoire du Père Noël, édition du Pérégrinateur. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, d'où vient le Père Noël? Est-ce que c'est bien un dérivé, en quelque sorte, de Saint-Nicolas au départ?
Alors, Saint-Nicolas fait partie des ancêtres du Père Noël, en effet, mais on peut dire que ça remonte même plus loin. Parce que c'est un personnage qui est lié à l'hiver, une période stérile commencée. Donc, on va avoir besoin justement de se réchauffer avec, entre autres, les cadeaux qu'on va offrir pour un début d'année. Et c'est dans ces cadeaux, qui dit cadeau, dit donateur de cadeaux.
Oui, parce qu'au départ, il y a deux figures dans celle de Saint-Nicolas. Il y a à la fois un évêque du 3e, 4e siècle en Turquie, si je ne me trompe pas, qui, la oui. nuit, distribue de la nourriture, éventuellement des cadeaux aux gens dans le besoin. Et puis, cette figure, la légende de Saint-Nicolas, qui sauve trois enfants qu'un redoutable boucher avait condamné. Ces deux figures-là se mélangent un peu.
Ah oui, les deux figures se mélangent, si on veut. C'est vrai que Saint-Nicolas était un évêque qui a réellement vécu et qui on lui a prêté de nombreux miracles. Des miracles plus ou moins légendaires, évidemment. Mais un des miracles les plus connus, avant même les enfants dans le saloir, c'est d'abord d'avoir sauvé des marins de la tempête.
Oui.
Et pour cette raison, Saint-Nicolas est devenu le patron des marins, des bateliers, des
personnes. Donc avec une grosse dévotion autour de cette personne.
Une grande dévotion, exactement. Et son culte, d'ailleurs, propagé par les marins.
Oui.
Et puis, donc, Saint-Nicolas a eu cette réputation après d'avoir ressuscité ses enfants qui avaient été coupés en morceaux par un méchant boucher. Ça, alors là, cette légende apparaît vers le 9e, 10e siècle. Ça a été des écoliers, enfin, elle est un petit peu différente.
Oui, est-ce que c'est trois jeunes filles, trois écoliers, trois enfants?
Oui,
trois...
alors, voilà. Et puis après, elle s'est fixée en particulier avec Gérard de Nerval au 19e siècle.
Ah, donc beaucoup plus récent.
Qui l'a recueillie dans une version picarde, enfin, voilà, et qui est la version connue, donc, des petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ, oui. Etc.
Et donc, chaque région du monde, ou peut-être plutôt chaque région d'Europe, s'est appropriée cette légende. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on pense au Père Noël américain, Santa Claus, c'est vraiment, oui. c'est tous les attributs qu'on peut se représenter d'un Père Noël, mais Santa Claus, au départ, c'est Klaus, qui est le néerlandais pour Nicolas, donc ça se mélange au niveau... Alors qu'au Royaume-Uni, c'est bien Father Christmas, le Père Noël.
Oui, alors, c'est les petits-enfants qui appellent Father Christmas. Mm-hmm. Après, ils passent à Santa Claus, ou Santa tout court. Mais autrement, oui, c'était
mais
le
les
nom
Américains
vient
qui disent...
de Saint-Nicolas.
Voilà, les Américains qui disent Santa Claus, ils pensent pas à la figure d'un Saint-Nicolas, ils pensent à l'équivalent du fameux Père Noël, quoi.
Ah, complètement.
Comment
là,
s'est opéré ce mix, cette configuration?
Eh bien, en fait, Saint-Nicolas est très bien implanté dans le nord de l'Amérique parce que les premiers colons au XVIIe, XVIIIe étaient très heureux d'avoir traversé l'Atlantique sain et sauf. Donc, ils ont importé le culte de Saint-Nicolas.
Oui.
Et alors, progressivement, ce saint qui était... un évêque avec un port assez hiératique, avec sa crosse, sa cape, sa mitre. Mmh. Progressivement, il a changé. Et en 1822, il apparaît, entre autres, dans un petit poème où il prend le nom de Saint Nick,
oui.
N-I-C-K, Nick.
Poème d'un pasteur américain, c'est
voilà.
ça ?
Voilà. C'est
Clement Moore.
Clement Clark Moore, exactement, qui avait écrit donc à propos de ce petit personnage. Alors, il avait gagné la toute petite taille des lutins d'Europe pour pouvoir se glisser par les cheminées. Et puis, donc, il arrivait avec ses rennes. Donc, il avait pris des traits en même temps.
Les rennes, les lutins, peut-être même la Laponie, tout ça, ça s'ancre et ça se crée il y a 200 ans.
Oui, c'est ça. Mais ça s'est peut-être créé il y a 300 ans. Mais si vous voulez, c'est arrivé tellement lentement. Les choses se sont accumulées les unes sur les autres.
C'est ça, il y a une profusion, il y a un creuset de différentes traditions qui s'entremêlent et forcément une mondialisation aussi qui s'opère peu à peu à travers les siècles. Si on analyse un peu cette figure du Père Noël, qu'est-ce qu'il est censé être? Est-ce que c'est, puisqu'il n'a ni ascendance ni descendance, est-ce que c'est un personnage divin qui fait ce jugement des enfants sages ou pas sages? Est-ce que c'est un super-héros puisqu'il vole comme Superman sur son traîneau? Est-ce que c'est une simple allégorie du grand-père idéal qui est tendre, qui est bon vivant à la fois? Comment vous le percevez?
Alors, c'est un peu tout ça mélangé. C'est un personnage qui est capable de se déplacer dans les airs.
Oui.
Qui peut aller de cheminée en cheminée déposer des cadeaux.
Bon, des gâteaux aussi, ça peut en faire partie.
Aussi, pourquoi pas. Voilà. Et donc, c'est un personnage qui n'intervient que une nuit dans l'année.
Oui, on se demande
alors,
ce qu'il
bien
fait
sûr,
le reste de l'année.
on lui a prêté un atelier où il œuvre toute l'année. On peut le voir même au mois d'août. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un personnage propre, très mystérieux, qui venait d'un continent mystérieux parce qu'il vient du froid. Il oui. vient de l'hiver. À l'époque où Clement Clark Moore, et en particulier Thomas Nast, qui l'a dessiné à la fin du 19e, à l'époque, le pôle Nord n'avait pas été découvert.
Oui.
Donc, c'était encore
donc
une
le pôle
région
Nord, c'était un peu la Laponie à l'époque, le nord de la Scandinavie.
Oui, c'est ça, mais le vrai pôle Nord a été découvert en 1909, pas très très longtemps après, mais enfin par Robert Peary, entre autres. Et donc, ce petit personnage, arrivé du froid, est toujours, toujours bien couvert.
Alors, question importante, vous dites qu'il est dessiné à ce moment-là, donc il y a deux siècles.
Oui.
Il est dessiné de quelle couleur?
Ah ben justement, dans le poème de Clement Clark Moore, déjà, il a des vêtements couleur de suie. Donc, à nous de deviner.
Donc là, c'est plutôt grisâtre, j'imagine.
Marron grisâtre, exactement, voilà.
Bah, en même temps, il passe par la cheminée, donc c'est logique.
Oui. Alors, donc, c'est logique. Mais après, Thomas Nast lui a dessiné différents habits de différentes couleurs. Pas forcément rouge, mais aussi de la couleur du drapeau américain, par exemple, enfin, différentes couleurs. Et puis, dans l'imaginaire, le Père Noël pouvait être vert, pouvait être bleu, pouvait enfin, avoir des habits différents, pouvait être habillé en blanc, ocre aussi. Et donc, mais peu à peu, la couleur rouge s'est fixée. D'abord, Saint-Nicolas, l'évêque, était souvent représenté en rouge. Mmh. Et puis, progressivement, le Père Noël, en fait, dans certaines publicités, alors il avait toujours une grande barbe. Toujours.
Alors, on va dire la marque, parce que c'est vraiment... est-ce une légende ou pas? On dit que c'est Coca-Cola qui a, quelque part, imposé le rouge et le blanc, ses couleurs alors, à lui, à elle, cette marque, pour le Père Noël. C'est le cas ou c'est plus compliqué que ça?
Alors, ce n'est pas le mot imposé. Mais en fait, il a fixé dans l'imaginaire la couleur et la taille normale, puisque avant c'était donc le petit lutin, enfin un petit bonhomme rondouillard, ventru, joufflu, tout ce qu'on veut. Mais lui, Thomas, dans les dessins de Thomas Nast, il est resté encore petit, alors que pour la campagne de Coca-Cola, qui était dessinée par Adam Sundblom, qui était suédois d'origine, eh bien, il avait retrouvé, lui, sa taille normale. Et il était toujours plutôt joufflu et plutôt souriant et facétieux.
Nadine Cretin, vous qui êtes historienne des fêtes et des traditions occidentales, aujourd'hui, quelles sont les déclinaisons géographiques de ce personnage? Les déclinaisons qui persistent. On a la Befana en Italie, qui est une femme. On a en Espagne, c'est plutôt les rois mages qui vendent l'épiphanie, donc 5-6 janvier distribuent les cadeaux. Il y a la figure, je crois, d'un bouc de Noël, hein, donc on n'est pas loin du renne, du côté de la Finlande. Est-ce que ces traditions-là, elles persistent aujourd'hui, ces figures-là? Alors, ou est-ce que le Père Noël a fait une OPA, j'allais dire, sur toutes les figures de l'apporteur de cadeaux?
Maintenant, le Père Noël est connu partout, mais ceux qui apportent les cadeaux, ce n'est pas forcément le Père Noël qui va apporter les plus beaux cadeaux. Le Père Noël va apporter, par exemple, des cadeaux alimentaires au moment de Noël, et puis les beaux cadeaux viendront après avec la Befana, par exemple, en Italie, ou les rois mages en Espagne. Effectivement, il y a eu différents personnages donateurs de cadeaux, et en particulier le personnage de la Befana est intéressant parce que c'est les personnages de sorcières, de sorcières dangereuses, et en fait ça recoupe la personnalité du Père Noël, qui est à la fois gentil et bonhomme et tout, mais justicier, et il fait la part des choses.
Alors, c'est intéressant, vous introduisez deux notions, le côté féminin de la Befana, j'ai envie de parler de la Mère Noël, et puis le côté double face du Père Noël, j'ai envie de vous parler du Père Fouettard. Parlons d'abord de la Mère Noël. J'ai l'impression qu'elle émerge de plus en plus comme un alter ego, quasiment, du Père Noël.
L'un
étant remplaçable par l'autre.
C'est une figure récente qui n'est pas antérieure au 19e, mais qui a toujours plutôt accompagné le Père Noël, en fait, sans prendre vraiment son rôle. Alors que, bon, on essaye de la placer
de plus en plus,
mais voilà, comme si c'était sa bonne épouse qui est à la maison, qui est prête à...
Qui veillait sur lui pendant que lui veille sur les enfants.
Voilà, si on veut.
Et alors, le Père Fouettard, puisqu'on a l'impression qu'il a un peu disparu en route, est-ce que c'est parce qu'on ne veut plus faire peur aux enfants? Est-ce que c'est parce que maintenant, on va manier uniquement la carotte et non plus le bâton? Comment vous voyez ça?
Oui, vous avez raison, c'est parce qu'on ne veut plus ce personnage qui a l'air de trop punir, de faire peur aux enfants. Mais en fait, en réalité, le Père Fouettard est apparu très, très tôt. Dans les personnages dont je parlais tout à l'heure qui se produisaient au moment des carnavals, il y avait aussi, dans certains carnavals d'Autriche, par exemple, encore, ça perdure, à côté des beaux donateurs, il y avait des personnages laids qui étaient vêtus de feuilles, qui arrivaient de la forêt, on ne savait pas trop, vêtus de mousse, de pommes de pin, et puis aussi de haillons, qui avaient toujours des noms, le sale, enfin, des noms ou d'animaux, mais c'était un personnage qui faisait peur. Et en fait, plutôt que d'être un personnage punitif, c'était un personnage qui symbolisait l'au-delà, qui symbolisait le monde non civilisé, et qui prouve finalement que l'homme s'est toujours demandé d'où il venait et où il allait.
Est-ce qu'il y a un côté jugement dernier dans l'ambivalence entre Père Noël et Père Fouettard ?
Non, non, ça ne va pas jusque-là.
Jugement dernier chaque Noël ?
Non, non, ça ne va pas jusque-là. Mais enfin, on continue de dire à l'enfant, si tu n'es pas sage, le Père Noël ne passera pas.
Dernière figure qu'on n'a pas évoquée, celle de Ded Moroz en Russie.
Oui. Alors lui, c'est un personnage, en fait, que l'on, le père Gel, si on veut, qui vient avec la petite demoiselle de neige, qui symbolise l'hiver, donc qui est toujours bien couvert. Mais même quand c'est un saint comme Saint Basile, par exemple, pour les Grecs, les orthodoxes, c'est lui qui apporte les cadeaux, c'est toujours un personnage que l'on couvre, qui est bien couvert et qui vient du froid, en fait. Hein. C'est toujours cette même image de l'hiver. Et maintenant, il est connu mondialement. Ça n'empêche pas, en particulier grâce à Coca-Cola, justement, qui a fait sa campagne en plein hiver, mais c'était surtout pour vendre dans l'hémisphère sud, où c'est l'été. Donc finalement, c'est aussi grâce à Coca que le Père Noël a été connu mondialement, quoi.
Pas de Père Fouettard ce soir, en tout cas, on l'a compris. Et chacun, chaque pays, son Père Noël, on va le laisser tranquille. Il a encore quelques millions de cheminées à visiter. Merci Nadine Cretin, historienne des fêtes et des traditions occidentales. Votre histoire du Père Noël est parue aux éditions du Pérégrinateur. Merci d'être venue ce soir dans Un jour dans le monde.
Merci et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous. Dans un instant, on redescend du traîneau. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir François.
Avec vous, on remet le monde à l'endroit.
Et on parle liberté d'expression, notion devenue à géométrie variable au service d'une offensive idéologique.
D'abord la musique de David Byrne, What is the reason for it? Et vous êtes bien sur France Inter, nous sommes le 24 décembre au soir. David Byrne, légende des Talking Heads, ici en solo dans la playlist de France Inter avec What is the reason for it, titre sorti cette année. Voici le monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Le 18-20. François Geffrier.
Louise Baudet, pourquoi la liberté d'expression selon Donald Trump est la liberté de son expression à lui au détriment de celle de ses adversaires?
La censure n'est pas là où vous le pensez. C'est Thierry Breton qui le dit. Désormais interdit de séjour aux États-Unis pour avoir mené le combat en faveur de la régulation du numérique, l'ancien commissaire européen contre-attaque en invitant à regarder ce que devient la liberté d'expression dans l'Amérique trumpiste. Et le tableau est sans équivoque. Entre ces humoristes des Late Shows que le président américain veut achever, il l'a écrit la nuit dernière, ce reportage consacré aux expulsions de migrants, reportage déprogrammé il y a 3 jours sur CBS, la chaîne appartient à un généreux donateur de Trump. Sans oublier ces journalistes jugés hostiles, interdits de conférences de presse et d'accès aux lieux de pouvoir. Qu'on ne s'y trompe pas, la croisade menée par Donald Trump vise à redessiner le paysage audiovisuel à sa main. Il a pour cela placé un fidèle à la tête de la puissante autorité de régulation du secteur, l'équivalent de l'ARCOM, et s'en prend méthodiquement à tous ceux qui le critiquent, loin de la liberté d'expression qu'il prétend défendre en combattant les idéologues européens.
Et ces idéologues, Louise, ce sont les tenants de la régulation du numérique.
Oui, ceux qui, avec Thierry Breton, ont conçu les lois européennes dont l'objectif est de lutter contre les abus de pouvoir des géants du numérique et contre le laisser-faire dans la diffusion de contenus illégaux, incitation à la haine, propagation de fausses informations, diffusion de produits dangereux, notamment pédopornographiques. Avec un mot d'ordre, l'Internet, ce n'est pas le Far West et ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Mmh. À la clé des amendes salées jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du contrevenant et en cas de violations graves et répétées, des plateformes interdites d'exercer leur activité en Europe.
Oui, c'est cette perspective-là qui déclenche la fureur de Donald Trump et de la Big Tech.
Oui, 2 amendes ont mis le feu aux poudres. Près de 3 milliards d'euros réclamés en septembre à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Et surtout, ces 120 petits millions d'euros, si je puis dire, infligés à X, le réseau social d'Elon Musk au début du mois pour tromperie et manque de transparence. Alors, aucune de ces 2 affaires ne porte sur les ingérences politiques également reprochées aux plateformes. Ces enquêtes-là, nettement plus explosives, sont encore en cours d'instruction. Mais qu'importe, pour Washington, ces premières amendes sont la marque d'une censure extraterritoriale et du recul de la liberté d'expression en Europe, dans la droite ligne du discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich en février dernier. Discours vécu en Europe comme un électrochoc.
Bon, ce qui est vrai, Louis, c'est que la liberté d'expression n'a pas tout à fait le même sens des deux côtés de l'Atlantique.
Oui, c'est vrai, le discours de haine n'existe pas dans la loi américaine. Le premier amendement, pilier de la démocratie, assure au free speech un champ d'application beaucoup plus étendu que la loi française. Traditionnellement, la droite américaine s'en fait le premier défenseur d'ailleurs contre les libéraux accusés de censurer cette liberté fondamentale. Liberté sacrée en Amérique, mais qui est aussi devenue une notion à géométrie variable au service d'une offensive idéologique. La liberté pour mes idées, pas pour celle de mes détracteurs.
Alors face à cette offensive, comment réagit l'Union européenne?
Alors depuis l'adoption des lois de régulation du numérique, il y a 2 ans, 20 d'enquêtes ont été ouvertes contre le réseau X, donc TikTok, Meta, Alphabet, Apple, mais aussi Temu ou Shein. Et ces enquêtes, eh bien, elles ont tendance à s'éterniser. La commission de Bruxelles a la main qui tremble, dénonce ses détracteurs, notamment Thierry Breton, coucou le revoilà. Mais il n'est pas le seul, hein, le français a considéré qu'Ursula von der Leyen et son équipe sont trop prudents face à la Big Tech et en cela par une procédure sinueuse qui prévoit une longue analyse des mesures correctrices proposées par le contrevenant. Ainsi, de l'amende record, 3 milliards, je vous en parlais, infligée à Google début septembre, eh bien l'affaire est en fait loin d'être réglée. L'Union européenne redoute des mesures de rétorsion. Droits de douane, soutien de Washington à l'Ukraine, les leviers américains sont puissants et la Commission le sait, elle avance en terrain miné.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le monde à l'endroit, à retrouver au bon endroit, c'est-à-dire sur l'application Radio France. Il est 18h41, on part en reportage. Faites attention, hein, en traversant la rue, en passant par le reportage d'un jour dans le monde au Brésil ce soir. Parce que ce qu'on vient d'entendre, là, ce petit bruit bizarre, c'est le bruit que fait un caïman qui avance tranquillement à Rio de Janeiro, dans une favela. Il a pris ses aises, l'animal, et on les voit de plus en plus, hein, au coin de la rue, dans la cour d'une maison ou même sur la plage. Les apparitions de caïmans ne sont plus si rares dans la ville. L'explication, c'est la croissance immobilière qui grignote son territoire. Et le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui nous le raconte.
Ricardo Freitas imite le bruit de l'animal pour attirer sa curiosité. Ça fait 25 ans qu'il étudie les caïmans de Rio, tout spécialement ceux du quartier de Jacarepaguá, qui en langue autochtone veut dire la vallée des caïmans. Depuis l'embarcation précaire sur laquelle il se dresse, flottant au-dessus d'une eau fétide, il tente de capturer un spécimen d'un peu moins de 2 mètres. Ça y est, il l'a attrapé. Il faut maintenant le marquer, vérifier le poids, la taille. Avec l'Institut Jacaré, Ricardo recense ces animaux et s'inquiète de les voir s'aventurer au milieu de la ville.
On néglige le principal prédateur de Rio, survivant d'une zone complètement dévastée par un développement urbain chaotique.
Cette région, autrefois préservée, est devenue l'Eldorado du secteur immobilier. Les constructions gagnent du terrain sur les lagunes et y déversent trop souvent leurs égouts. Ces étendues d'eau, toujours plus réduites, plus polluées et moins profondes, se réchauffent. Une catastrophe pour les reptiles.
Les caïmans font leur nid et la température détermine le sexe. Si elle augmente, la distribution naturelle entre mâles et femelles est perturbée. Aujourd'hui, nous avons ici 85% de mâles.
Du coup, même si on compte aujourd'hui près de 6000 individus à Jacarepaguá, ils pourraient à moyen terme disparaître. Et puis, trop nombreux, les mâles se bagarrent et se tuent.
Ce n'est pas qu'il n'y a plus de caïmans, c'est juste qu'ils sont concentrés dans une zone toujours plus restreinte. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace pour se reproduire, s'alimenter, il y a trop de collègues. Du coup, ce n'est pas qu'ils s'aventurent en territoire urbain pour chasser, c'est juste une recherche désespérée pour trouver un meilleur endroit pour vivre.
Durant leur quête, il peut leur arriver des malheurs. Les plus chanceux se font recueillir dans la clinique du vétérinaire Jefferson Pires au sein de l'université Cras Unesa.
On en voit souvent qui arrivent le ventre complètement rempli de plastique. Mais ce qui est le plus courant, c'est d'en recevoir qui se sont fait écraser par une voiture.
Jefferson en soigne une trentaine par an. Certains se perdent et atterrissent dans la mer après de fortes pluies. Ils ne peuvent y survivre que 72 heures. D'autres se font attaquer par la population.
J'ai déjà reçu des animaux qui ont été attaqués à coups de bouteilles, de bâtons. Les personnes en ont très peur, peut-être à cause de l'image créée dans divers médias, de vieilles histoires qui en font un animal agressif et dangereux. Mais l'espèce locale de caïman est au contraire très tranquille.
Au pire, ils peuvent manger un chat ou un chien, mais ils ne s'attaquent pas aux humains. Les plus gros peuvent pourtant dépasser les 3 mètres. Chico, l'un des derniers habitants d'une communauté de pêcheurs qui résiste sur la lagune, déplore une situation qui empire.
Même si parfois ils nous déchirent nos filets, il faut être conscient qu'on est sur son territoire et qu'il est très important pour l'équilibre de la lagune. Mais il y a beaucoup de chasseurs. Rien que la semaine dernière, on a encore trouvé un caïman tué par balle. Ils le chassent pour manger et revendre sa viande. Ces pauvres bêtes souffrent de la pollution comme de la violence des hommes.
Pêcheurs comme scientifiques sont bien seuls à s'inquiéter du sort de ces reptiles. Bientôt, l'histoire de la vallée des caïmans pourrait se poursuivre sans eux.
Reportage à Rio de Jean-Mathieu Albertini. Et demain, on va reparler de mâchoires acérées, puisque le reportage nous ramènera au tournage des Dents de la Mer. La suite d'Un jour dans le monde, c'est Sous les radars, avec vous Alice Moreno.
Et nous irons en Gambie, où l'illégalité de l'excision est remise en cause.
Et juste après, Julien Baldacchino, vous nous proposez 2 comédies musicales pour le prix d'une.
On va à Broadway découvrir un spectacle qui mêle histoire de la révolution américaine et hip-hop. Et on verra qu'en France, on avait peut-être eu l'idée avant.
A tout de suite, d'abord la douceur mélancolique d'Antonio Carlos Jobim et son matin de carnaval.
Mmh. dit amanhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos. Nos lábios teus canto o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
Une chanson qui a accompagné une palme d'or à Cannes, celle de 1959, Orfeu Negro de Marcel Camus. Le titre, c'est donc Mania de Carnaval, chanté par Elisette Cardozo, devenu un classique de la bossa nova. Voici Alice Moreno, c'est Sous les radars.
¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay
combien de disparitions ont été causées par le crime organisé et combien sont les absences volontaires?
C'est la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum qui fait mine de s'interroger, répondant à un journaliste sur le sujet ultra sensible des disparitions dans le pays. Près de 130 000 personnes sont officiellement portées disparues au Mexique, pour la plupart victimes des narcotrafiquants. La police est souvent taxée de collusion avec les cartels de drogue et les gouvernements successifs critiqués pour leur inaction. Ces dernières semaines, des fosses clandestines remplies de restes humains ont été découvertes. Des dizaines d'entre elles ont été mises au jour au gré des travaux entrepris pour le Mondial de football qui se tiendra en juillet prochain. À Guadalajara, par exemple, l'une des trois villes hôtes de la compétition, des centaines de sacs remplis d'ossements ont été extraits de l'une de ces fosses. C'est ce que rapporte la correspondante du journal La Croix. Les proches des personnes disparues, toujours en quête de réponse, demandent aux autorités de prendre une position claire, de les aider à identifier les victimes et craignent que des ossements ne soient éparpillés par les bulldozers ou que les affiches des personnes disparues ne soient retirées pour rendre la ville plus belle à l'occasion de la Coupe du Monde. Ces familles de victimes redoutent que les autorités ne cherchent à faire, je cite, « disparaître les disparus ».
I am a survivor. I still remember some of the things that happened to me.
Je suis une survivante, c'est ce que dit cette jeune activiste pour les droits des femmes. Je me souviens encore du moment où on m'a emmenée quand j'étais petite fille.
Fatima Jarjou, jeune femme gambienne, évoque le souvenir douloureux des mutilations génitales dont elle a été victime. Elle prend position aujourd'hui alors que le débat autour de l'excision refait surface en Gambie. La Cour suprême a entamé il y a plusieurs jours l'examen d'un recours qui remet en cause l'interdiction de cette pratique illégale depuis 10 ans. La requête auprès de la Cour suprême est portée par un député et plusieurs organisations religieuses. Ce n'est pas la première fois que l'illégalité de l'excision est remise en cause dans le pays. En 2024 déjà, le même député avait porté un projet de loi pour la rendre légale. Projet de loi qui avait été rejeté. Espérons qu'il en soit de même cette fois-ci. Outre le traumatisme psychologique que peut représenter une telle mutilation, l'ablation totale ou partielle du clitoris peut avoir des conséquences physiques très graves. Douleur, incapacité à avoir des relations sexuelles, impact sur la santé reproductive et des infections causant parfois la mort. En août dernier, un nourrisson est décédé des suites d'une excision, soulevant une vague d'émotions en Gambie. D'après l'UNICEF, 73% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées, ce qui place la Gambie parmi les pays les plus touchés par les mutilations génitales féminines.
So you're not depressed. You just need to come to Nigeria. You just need to come to Nigeria.
Tu n'es pas déprimé, tu as juste besoin de venir au Nigeria.
C'est l'invitation lancée par cette influenceuse nigériane alors que vient de débuter le festival Dirty December, décembre sale, qui est surtout salement festif. Chaque année, désormais, à l'approche des fêtes de Noël, la plus grande ville du pays, Lagos, qu'abrite 25 millions d'habitants se transforment en monstres de festivités pour une quinzaine de jours jusqu'à la nouvelle année. Concerts géants, soirées jusqu'au bout de la nuit dans les clubs de la ville, animations lumineuses. Le phénomène est né dans les années 2000 et devient aujourd'hui une institution. La population converge des quatre coins du pays pour assister aux fêtes et les membres de la diaspora rentrent eux aussi au Nigeria pour l'occasion. Et pour cette édition, des stars de la musique nigériane sont attendus sur scène, comme Wizkid, Olamide ou Davido que l'on entend en studio et qui a de quoi égayer votre réveillon de Noël.
On va redonner les noms, hein. Wizkid, Olamide ou Davido. C'est votre playlist du réveillon sponsorisé par Alice Moreno. Merci Alice.
Et bon réveillon.
Et bon réveillon, on n'a pas fini de parler musique d'ailleurs dans Un jour dans le monde.
France Inter, Un jour dans le monde.
Pendant les fêtes de fin d'année, ce ne sont pas des livres exceptionnellement, mais des comédies musicales qui vont écrire le monde. Julien Baldacchino, vous allez mettre en lumière de grandes comédies musicales en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous commencez avec un monument d'histoire américaine.
Un monument de l'histoire américaine, des comédies musicales et puis de la Révolution américaine. Un certain Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, c'est le moins connu des pères fondateurs de l'Amérique, le premier des ministres des finances de George Washington. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on consacrait une comédie musicale à Colbert ou à Mirabeau, et tout ça avec du rap. Sur le papier, ça peut faire rire, et d'ailleurs, ça a fait rire. L'auteur-compositeur Lin-Manuel Miranda a présenté son concept en 2009 à la Maison Blanche, devant Barack Obama. Écoutez comment le public réagit.
Je travaille en ce moment sur un album hip-hop. Un album concept sur la vie de celui qui incarne le hip-hop, le secrétaire au trésor Alexander Hamilton. Vous riez, mais c'est vrai. Il est né orphelin sans sou, dans les Antilles, d'une union illégitime. Il est devenu bras droit de George Washington, puis secrétaire au trésor. Il s'est disputé avec tous les autres pères fondateurs, et tout ça par la force de sa plume. Je crois qu'il incarne le pouvoir qu'ont les mots de changer les choses.
6 ans plus tard, dont 3 pour écrire les 3 premières chansons du spectacle, Hamilton devient une déferlante saluée pour sa qualité musicale, mais aussi pour son impact sociétal. Tous les comédiens et comédiennes qui jouent des révolutionnaires américains sont issus des communautés afro, latino ou asiatiques des États-Unis. Le spectacle devient une sorte de condensé de ce que l'Amérique d'Obama portait. Et aujourd'hui encore, c'est un show qui fait office de contre-modèle de société aux États-Unis.
Et la musique est... Et plus précisément le rap, occupe une place importante dans la construction de ce récit de la Révolution.
Oui, dans Hamilton, le rap représente la modernité, là où la royauté du roi d'Angleterre George III est inspirée de la pop britannique, comme dans cette chanson qui fait partie des tubes du spectacle « You'll be back » que les Beatles n'auraient pas renié. You'll be back, soon you'll see, you remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. La confrontation entre cet art de la chanson et celui du rap transcrit l'atmosphère bouillonnante de cette fin de 18e siècle et chaque personnage a son appréhension bien spécifique de la musique, son propre flow. Hamilton, c'est celui qui se bat pour chaque ligne qu'il peut écrire. Son style, c'est presque du slam. Dans cette autre chanson, Non-Stop, vous allez l'entendre face à son rival Aaron Burr qui lui a un phrasé plus issu des chansons R&B. Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me. Are you aware that we're making history? This is the first murder trial of our brand new nation. The liberty behind a liberation. I intend to prove beyond the shadow of a doubt with my assistant counsel. Co-counsel Hamilton, sit down. Our client Lemmy Weeks is innocent. Call your first witness. That's all you had to say. Okay, one more thing. Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Et quand Thomas Jefferson arrive en scène après avoir loupé la Révolution américaine puisqu'il était en France, eh bien, il ne rappe pas et sa chanson sonne très Broadway. So what did I miss? What did I miss? Virginia, my home sweet home, I wanna give you a kiss. I've been
I basically missed the late 80s. I travel the wide, wide world. It came back.
Avec un petit clin d'œil, I missed the late 80s, j'ai loupé la fin des années 80. Mmh. Ça s'applique à 1780 si on parle histoire, mais 1980 si on parle musique. Ça ne dure pas bien longtemps, Jefferson se met vite au parfum et sa bataille législative avec Hamilton se transforme en battle de rap.
Et tout ça, Julien Baldacchino, vous a rappelé une comédie musicale qui a été créée de ce côté-ci de l'Atlantique.
Oui, en 1973, le premier opéra rock français est consacré à la Révolution française, créé par Alain Boubli et Claude-Michel Schoenberg, qui quelques années plus tard ont mis en musique Les Misérables. Eh bien déjà, à l'époque, ils avaient cette même idée. Écoutez Claude-Michel Schoenberg dans une interview datée de 2000.
On a appelé ça un rock opéra, donc il fallait justifier le côté rock de l'opéra. Et on s'est dit que si on faisait le rock, le tiers état et l'orchestre symphonique, la noblesse et le clergé, et puis on avait écouté un disque de Deep Purple à l'époque qui avait fait un genre de concerto pour groupe de rock and roll et grand orchestre.
Rock symphonique.
Rock symphonique, on a dit mais ça va être formidable.
L'ancien régime est donc représenté par de la musique symphonique. Schoenberg joue lui-même Louis XVI et pour le tiers état, il fait appel au groupe Martin Circus. Les Martin Circus, on les connaît pour des chansons comme Marilène ou Je m'éclate au Sénégal, mais c'est quand même un groupe de hippies qui font du rock progressif. Alors voilà ce que ça donne avec un extrait des États généraux.
Oui, si, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, si, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France.
Au nom du tiers état, nous ferons respecter le peuple dans l'assemblée. Nous sommes là par sa volonté.
Alors ce spectacle-là n'a pas eu le même succès qu'Hamilton depuis 1973. C'est dommage, c'est vrai. Il n'a été remonté qu'une fois, l'an dernier, à Paris. Mais déjà, il y avait une forme de modernité dans cette confrontation des styles dans cet opéra rock. En guise de cadeau sous le sapin, je vous laisse avec un autre extrait du spectacle. C'est Robespierre qu'on va entendre, interprété par un jeune artiste encore inconnu à l'époque, un certain Alain Bachung.
Des moulins, Favre, des glantines, à la guillotine.
Un bref extrait d'Alain Bachung dans cette comédie musicale, cet opéra rock sur la Révolution française. Merci Julien Baldacchino.